Écoutez bien l'histoire suivante. Ça se présente dans l'actualité. Il y a un gars qui s'appelle Michel Cox qui, il y a 20 ans, après avoir violé 8 femmes et des adolescentes à la pointe d'un couteau, c'est un sadique sexuel, il a été libéré après 14 ans de prison sur 21 ans qui était sa sentence. Ok? Donc, c'est l'année passée qu'il a été libéré. Ben, moins d'un an après son affaire, il a enlevé une jeune fille de 16 ans qui s'est débattue comme un diable dans l'eau bénite pour s'en sortir. Elle a été très chanceuse et en fin de compte, il s'est sauvé. Il vient de plaider coupable à ces accusations-là, de cette récidive-là. Et là, on se retrouve avec une demande de ses avocats, j'espère, d'aller en évaluation psychiatrique à Pinel. Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation psychiatrique pour un prédateur sexuel? Je pense qu'il faut en parler sans parler de ce cas-là, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est. Sais-tu comment tu vas? Comment tu t'appelles? Regarde, choisis un de mes doigts, puis je le brasse, puis te souviens-tu de lequel tu as choisi? Qu'est-ce que c'est? Le docteur Gilles Chamberlain est psychiatre à l'Institut Pinel. Philippe Pinel, bonjour.
Bonjour.
Docteur Chamberlain, vous êtes, la Cour vous envoie et vous réfère un prédateur sexuel, appelons-le comme ça, c'est pour ça qu'il a été condamné initialement, et vous avez à l'évaluer. Comment vous faites ça? Quel test il passe? Faites-vous juste y jaser ça? Comment ça marche?
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Premièrement, on va s'assurer qu'il n'y a pas juste ça, d'être un prédateur sexuel, qu'il n'y a pas d'autres maladies qui peuvent influencer ça, même des maladies physiques. Une fois qu'on a tout éliminé, toutes les maladies physiques, toutes les autres composantes psychiatriques, et qu'il ne reste que la composante sexuelle, mais là, on va évaluer ça de façon plus approfondie. C'est sûr qu'il y a des tests qui peuvent évaluer ça. Il y a des tests de personnalité qui peuvent nous en apprendre beaucoup. Il y a des tests plus spécifiques aussi sur les dangers que quelqu'un peut présenter. On peut être un agresseur sexuel, mais on peut être aussi d'autres choses. On peut être un psychopathe, on peut être un antisocial. Donc, il y a des tests qui évaluent ça. Il y a les entrevues cliniques aussi. Les gens se révèlent beaucoup parce qu'un test, c'est très structuré, c'est validé, mais on apprend beaucoup aussi en parlant avec les gens, leur enfance, comment ils se présentent, leur façon d'interagir, des gens qui vont toujours, par exemple, se poser en victime, même quand c'est eux les agresseurs. Donc, on en apprend beaucoup aussi comme ça. Et il y a aussi la plétismographie. La plétismographie, c'est une mesure de ce qui va exciter les gens. Donc, on a, avant ça, c'était sous forme de
Un anneau pénien avant, hein?
Exactement.
Juste pour les gens, un anneau pénien, c'est que la personne qui était potentiellement un prédateur sexuel ou qui avait une déviance sexuelle, on lui mettait un anneau autour du pénis et on lui montrait des films de jeunes enfants ou de jeunes femmes nues pour voir s'il avait une réaction érectile.
C'est exactement ça.
Okay.
Dans l'anneau, il y a du mercure, donc très sensible à la dilatation. Et la dilatation est mesurée en fonction des stimuli qui sont présentés aux patients.
Okay.
Donc, on peut présenter des stimuli neutres qui sont pas sexuellement, qui n'ont pas de charge sexuelle. On peut présenter des stimuli qui sont normalement excitants. Et là, on peut aller avec des stimuli plus déviants. Avant ça, c'était très standardisé parce que on étudie ça sur beaucoup de personnes et on peut à ce moment-là faire des comparaisons, des moyennes. Avant ça, c'était des bandes audio qui racontaient un récit et c'était toujours la même voix, la même longueur de temps, tout ça, la même personne qui lisait ça et les récits pouvaient représenter différentes perversions. Là, c'est plus sophistiqué, on peut avoir des images, des films, on peut même avoir des personnes en trois dimensions qui interagissent, des enfants qui interagissent avec nous en trois dimensions. Donc, ça peut en révéler beaucoup. Et ce qui fait qu'on a toute une panoplie de tests pour nous aider. Ce qui est à peu près probant, c'est que si on arrive à la conclusion que quelqu'un présente une excitation, présente une perversion à des choses qui sont anormales, présente un danger, habituellement, c'est assez fiable. Le contraire est moins vrai, par exemple. Si on arrive à la question que la conclusion qu'on n'a pas identifié tout à fait de choses précises, c'est parce que nos tests, quelqu'un pourrait les déjouer. Par exemple, la plétismographie, quelqu'un qui se forcerait à penser à autre chose, à faire abstraction complètement des stimuli qu'on lui envoie, c'est possible. Il y a d'autres gens qui sont excités par le simple fait d'avoir cet appareil-là, et là, ça peut brouiller les tests aussi. Quand on arrive à la conclusion que quelqu'un a une perversion, habituellement, c'est assez fiable. Quand on arrive à la conclusion qu'il l'a pas ou qu'il est pas dangereux, là, c'est plus délicat.
Bon, je veux pas parler de ce cas-là parce qu'il est pas devant vous, puis il est pas encore rendu à Pinel pour le faire, le test, en tout cas, ce qu'on en sait. Est-ce que le passé de l'individu, ses antécédents en semblable matière, pèsent dans la décision?
Absolument. Absolument. C'est même une des choses, autant dans les entrevues qu'on va faire, autant dans les tests standardisés, le passé de l'individu compte pour beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Malheureusement, ce qui va exciter quelqu'un, la charge de libido que quelqu'un va avoir par rapport à quelque chose, c'est assez stable dans le temps. Quelqu'un qui voudrait renoncer à ça pourrait même pas de lui-même. On ne peut pas changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, par exemple. Donc, quelqu'un qui a de la libido d'associer à quelque chose de négatif, de pervers, des enfants, de la violence, tout ça, c'est assez difficile à changer. Quelqu'un qui a la chance d'avoir une excitation sur des choses normales, on peut mettre l'emphase sur les choses normales pour qu'il laisse de côté les choses anormales. Par exemple, quelqu'un qui serait un pédophile exclusif, ouais, qui n'est excité que par des enfants, ça devient compliqué. Là, faut utiliser des moyens plus lourds, comme de la médication, qui va enlever la testostérone, qui va enlever une partie de la libido. Mais encore là, c'est pas une garantie, parce que les agresseurs sexuels, c'est pas juste de la libido non plus, là. Des fois, il y a une espèce de besoin de soumettre, il y a un besoin sadique qui est là, ouais, qui est pas nécessairement lié à de la libido non plus.
OK. À du contrôle plus, davantage, oui, un pouvoir malsain. Moi, là, ça se guérit-tu, ça se guérit pas? Je suis bien prêt, moi, à la réinsertion sociale, à la réhabilitation, puis tout ce que je veux. Mais une affaire comme celle-là, un gars, il en a fait 8 femmes et adolescentes, je parle de ce cas-là. Il change son nom de Cox à un nom d'un oiseau qui est un oiseau prédateur qui s'appelle Vautour. On s'entend-tu qu'il y a un message là-dedans?
Ben, je suis tout à fait d'accord. En lisant, je me suis dit la même chose. On n'a rien contre les gens qui peuvent avoir ce nom de famille-là. Mais quelqu'un qui est supposé rassurer les gens, rassurer la commission qui est plus dangereux, qui volontairement va choisir un nom comme celui-là, c'est pas pour rien que son agent de libération a plaidé pour qu'il ne sorte pas aux deux tiers. C'est clair. Okay. C'est pour ça que je disais tantôt que quand on sait que quelqu'un a quelque chose, c'est plus fiable que quand on dit qu'il n'y a rien, parce qu'il peut toujours nous le cacher. Mais des fois, on a comme des évidences. Okay. Là, l'évaluation de Pinel, ça se peut qu'on demande aussi si cette personne-là, c'est un délinquant dangereux.
Il a été déclaré comme tel dans le passé. Ceci étant dit, je veux sortir du cas parce que c'est devant la justice, puis il s'en va chez vous. Alors, on verra qui va le regarder. Mais honnêtement, là, si il était reconnu comme délinquant dangereux, puis il a fait son temps, puis il a purgé sa peine parce que le système fait en sorte que où on l'enferme, ce gars-là, on l'enferme sur la Pinel pour le restant de ses jours?
Non, c'est ça. Lui, il était délinquant contrôlé. Ça veut dire qu'au moment du procès qui s'est fait il y a quand même plusieurs années, on pensait qu'après sa sentence, même s'il était dangereux, on pourrait mettre des mesures qui pourraient protéger la société.
Ben oui.
Sans présumer de la décision, on a un peu démontré que ces mesures-là n'ont pas fonctionné. Dans la mesure où on lui a mis des conditions, il semble qu'il les ait pas respectées, ce qui fait que l'étape d'après, quand quelqu'un, on n'est pas capable de le contrôler en société, ben là, il devient un délinquant dangereux. Ça veut dire qu'on évalue que si à la fin de sa sentence, il n'y a aucune mesure qui assure la protection de la société, on peut le garder détenu dans un établissement de détention et non pas dans un hôpital comme Pinel.
Docteur Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel, merci beaucoup de nous avoir expliqué comment ça marche, quand ça ne marche pas. Merci.
Ça fait plaisir.
Salut, au revoir. Bye bye.